que les Juifs aient un État indépendant, avec simplement le fait que cet État doit être créé en Palestine. Face à cette demande, les oppositions sont multiples. Il y a une opposition des religieux qui pensent qu'on ne peut pas créer un État juif avant le retour du Messie. Il y a, je dirais, l'opposition majoritaire de la population juive qui commence à subir un antisémitisme réel à partir de 1880-1882 avec les premiers pogroms dans la Russie tsariste et qui veulent émigrer. En plus, il y a le poids de la pauvreté, ils veulent émigrer. Et la grande majorité des juifs, je crois qu'il y en a 1,2 million entre 1880 et 1920 qui choisissent leur terre promise, c'est les États-Unis. Pendant la même période, il va y avoir quelques dizaines de milliers de colons qui vont aller en Palestine. Il y a ensuite les Juifs qui veulent s'intégrer, qui disent « nous sommes Français, nous sommes Allemands, nous ne considérons pas du tout comme une nationalité ». Il y a les Juifs qui participent aux mouvements internationalistes, que ce soit socialistes ou communistes, et on sait à quel point dans ces mouvements ils ont joué un rôle important.
Vous pensez au Bund, par exemple.
Et il y a le Bund qui est aussi le grand mouvement des ouvriers d'Europe de l'Est. Donc, quand j'entends dire aujourd'hui « la critique du sionisme, c'est de l'antisémitisme », je veux dire, on est vraiment dans une espèce de négation de l'histoire. On peut penser que le sionisme a raison, mais encore une fois, il a suscité beaucoup, beaucoup d'opposition chez les Juifs et dans le reste des populations. Et ça, c'était normal. C'était un débat qui était considéré comme normal.
Vous citez quand même le prix de ce mouvement sioniste, ce que ça a pu être. Vous citez une déclaration de David Ben-Gourion, l'une des grandes figures du sionisme et de la création de l'État d'Israël, qui le 7 décembre 1938 déclarait, je cite, « Si j'avais su qu'il était possible de sauver tous les enfants juifs d'Allemagne en les transportant en Angleterre, mais seulement la moitié en les transportant en Palestine, j'aurais choisi la seconde solution, parce que nous ne devons pas seulement faire le compte de ces enfants, mais nous devons faire le compte de l'histoire du peuple juif. » C'est violent.
Oui, c'est très violent. Mais vous savez, le journaliste et historien israélien Tom Segev a écrit un livre qui s'appelle « Le septième million », qui raconte l'attitude du Yishuv, c'est-à-dire de la communauté juive en Palestine, par rapport aux juifs de la diaspora et au génocide. Ce n'était pas une préoccupation majeure durant cette période de sauver les juifs. Et le mouvement sioniste, sa préoccupation majeure, c'était de créer un État. Ce n'était pas que les juifs puissent se sauver en allant ailleurs. C'est qu'ils viennent en Palestine. D'ailleurs, il y a pendant cette période, entre 1933 et 1939, un accord entre l'organisation sioniste et l'Allemagne hitlérienne pour permettre à une partie de la population juive allemande d'émigrer en Palestine en échange d'un appui financier. Alors, on peut dire d'une certaine manière, et c'est vrai, que ça a sauvé 50 000 juifs allemands qui se sont retrouvés en Palestine et qui n'ont pas été victimes du génocide. En même temps, ça pose une question morale sur l'attitude qu'il fallait avoir, puisque à l'époque, une partie des organisations, y compris des organisations juives, demandait le boycott de l'Allemagne nazie et de l'Allemagne hitlérienne.
Alors, ce que vous évoquez là, en quelques mots, c'est un tabou, évidemment. Il y en a un autre, c'est celui des liens entre certains milieux palestiniens et les nazis. Sur le principe qu'on évoquait tout à l'heure avec le Japon, les ennemis de mes ennemis sont mes alliés.
Je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de dirigeants d'organisations nationalistes du tiers-monde ont pensé que l'Allemagne ou le Japon pouvaient être des alliés. Et c'est le cas de notamment Hadji Amin al-Husseini, qui était un des dirigeants palestiniens, qui va, lui, porter cette conception au maximum, puisqu'il va aller rencontrer Hitler et il va se prononcer pour la lutte contre la Grande-Bretagne et aux côtés de l'Allemagne nazie. Mais je dirais, il y a eu aussi beaucoup d'Arabes qui ont combattu d'abord dans les armées alliées et beaucoup de mouvements aussi nationalistes arabes qui ont condamné l'Allemagne nazie parce qu'ils savaient très bien effectivement que l'Allemagne nazie ne serait pas mieux que les Britanniques dans le traitement des populations arabes.
Mais enfin, ça aussi, c'est une chose. Vous connaissez très bien les milieux de ceux qui luttent pour la cause palestinienne. C'est un sujet dont on ne parle pas volontiers dans ces milieux.
Écoutez, il y a eu récemment un excellent livre de Gilbert Achkar qui s'appelle « Les Arabes et la Shoah » qui aborde ces problèmes de manière frontale. Et je pense qu'il faut les aborder de manière frontale. C'est comme la question de... J'ai évoqué l'accord passé entre les organisations sionistes et l'Allemagne nazie. Je veux dire, aujourd'hui, quand on demandait qu'est-ce qu'il fallait faire, franchement, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, effectivement, on a sauvé 50 000 juifs, c'était pas rien, mais en même temps, on a cautionné un peu l'Allemagne nazie. C'est compliqué, je veux dire. On a l'impression, si vous voulez, des fois, que la politique était simple. Rappelons quand même que, puisqu'on parle de l'Allemagne nazie, qu'entre 1933 et 1940, C'est un, les